Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Barcola avec Mayoulou, Mayoulou qui crochette, Mayoulou, Barcola, Barcola toujours le contrôle pour Mayoulou, Mayoulou la frappe pour Durand. Oh là 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 là, c'est la fête des gamins, c'est la fête des gamins, c'est la fête des titis.
Spécial victoire du PSG,
Jean-Christophe Drouet.
11h05, de retour sur RMC, les grandes gueules du sport, émission exceptionnelle en direct des Champs-Élysées. On vous raconte évidemment cette soirée merveilleuse, cette nuit de folie, la fête qui se prépare ici à Paris pour la grande parade en fin d'après-midi sur les Champs-Élysées. Notez bien ce rendez-vous dans moins d'une heure maintenant, à partir de midi, on vous rediffuse les meilleurs moments de cette finale de la Ligue des Champions avec aux commentaires Jean-Louis Tour, Jérôme Roten, Jeannot Séguier. Si vous voulez de nouveau avoir des frissons, si vous voulez vous réveiller dans la joie, dans la bonne humeur, comme on dit, il faut absolument continuer de nous écouter sur RMC, les grandes gueules du sport ce matin. Olivier Giraud, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Christophe Dugarry et Jean-Louis Tour, qui a visiblement le don d'ubiquité. Il est partout, oui, à la fois. C'est magnifique.
Bah là, je suis revenu. Donc, le premier truc que je fais en posant le pied en France, je viens voir JC. C'est quand même, c'est troublant.
C'est une belle preuve d'amitié. Merci beaucoup, Jean-Louis. Tu restes avec nous pour ce débat de haute volée. Un débat quelque part extraordinaire. Je le disais. Faut-il croire désormais à une dynastie Paris Saint-Germain? Vous me direz ce que vous en pensez, les GG, dans quelques instants. L'un de nos envoyés spéciaux à Paris, Pierre Thévenet, est en direct avec nous. Bonjour, Pierre.
Bonjour, JC. Salut à toutes et à tous.
Les Champs-Élysées se préparent à la fête.
Oui, pour l'instant, c'est très tranquille encore. On a surtout beaucoup d'agents municipaux mobilisés pour nettoyer l'avenue et ses alentours. Et tout le dispositif de production qui est en train d'être mis en place, les caméras, les enceintes installées au milieu de l'avenue. On aura également un hélicoptère qui va survoler l'avenue tout à l'heure lors de la parade. Les forces de l'ordre sont déjà là. Ce ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient en poste cette nuit sur les Champs. Ils ont bloqué tous les accès à l'avenue des Champs-Élysées dès 6h ce matin. Pour l'instant, très calme avec uniquement des riverains qui circulent et les agents de sécurité privée payés par le PSG qui vont se mettre en place petit à petit, qui vont aussi aider à réguler la parade. Les barrières sont déjà en place pour délimiter les trois zones qui vont accueillir des supporters. Je suis actuellement au bloc 3, celui tout en haut de l'avenue, le plus proche de l'Arc de Triomphe. Chaque bloc accueillera environ 30 000 personnes pour un total de 110 000 sur l'avenue, uniquement du côté impair de cette avenue des Champs-Élysées, qui va ouvrir au public à 14h30 pour un début des festivités et l'arrivée des deux bus à Impérial parisien à partir de 17h.
Merci beaucoup Pierre Thévenet, on te retrouve tout au long de la journée évidemment, envoyé spécial sur les Champs-Élysées. Alors mes GG, j'ai envie de citer ce matin, parce que je trouve que c'est une belle émission, j'ai envie de citer du Nietzsche. Je ne sais pas si vous connaissez, alors il n'a jamais joué de finale de Ligue des Champions, mais il a un petit palmarès quand même.
Merci. Ouais. Marcel Nietzsche, on connaît très bien bien sûr.
Pas du tout. Il a dit un jour, le philosophe, ouais, on veut la liberté aussi longtemps qu'on n'a pas la puissance, mais si on a la puissance, on veut la suprématie.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le relais avec Fabien Ruiz dans la surface de réparation maintenant. Vitinha à l'entrée de celle-ci. Oh, la belle passe de Vitinha pour Doué. Doué, le but. Oui. Yes. Hakimi à la 12e minute. Dembélé, le pied droit par-dessus pour l'écarter avec la frappe arrivée derrière. Allez. Le côté. Et le but. Le deuxième but pour le Paris Saint-Germain à la 20e minute. Oh, la talonnade, elle est bien faite de la part de Dembélé. Dembélé, Vitinha. Vitinha peut-être le décalage avec Doué. Doué, faut y aller. Doué. Doué, Désiré, le doublé, ça fait 3-0, Désiré, Doué, allez, Varaskeya, tout seul, vas-y mon garçon, le ballon piqué, la frappe et le but, la frappe et le but, 4-0, c'est une leçon. Barcola avec Mayoulou, Mayoulou qui crochette, Mayoulou, Barcola, Barcola toujours le contrôle pour Mayoulou, Mayoulou la frappe et le but, c'est terminé, Paris sur le toit de l'Europe, le football français remporte une deuxième Ligue des Champions et peut-être ça fait du bien.
Un triplé historique par ordre chronologique hein, et non par ordre d'importance. Ligue 1, Coupe de France et donc hier soir Ligue des Champions. Le PSG a tout raflé cette saison avec cette équipe extrêmement jeune, 24 ans de moyenne d'âge. Les Parisiens vont-ils marcher sur l'Europe? Mais GG, il va falloir débattre. La musique qui fout les jetons est cette question. Faut-il croire à une dynastie Paris Saint-Germain? Oui ou non? Pascal Duprat.
Oui.
Christophe Dugarry.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Oui, plutôt oui.
Oui, plutôt oui. Alors, vous ne voulez pas débattre ce matin, il n'y a aucun problème, je dirais non. Olivier Giraud.
Bah oui.
Oui, oh là là. Jean-Louis Tour.
Oui, mais j'en suis pas sûr à 100%.
Ah, tu n'en es pas sûr, tu
nous
as
non
des
plus,
doutes.
Eh bien, vous avez l'air bien sûr de vous.
Oui, oui, je suis d'accord. Il y aura quand même des nuances de gris dans cette émission.
Aussi, là,
avant de débattre, on retrouve la Voix du Foot sur RMC en direct de Munich. Jeannot Rességuero. Bonjour, Jeannot. Ah, il arrive de loin, de Munich. Je m'entends en écho.
Oui,
c'est pas grave.
Aussi.
Ah, c'est bon, Jeannot est là.
T'es en direct, là, Jeannot. Ouais.
Bravo. Ouais. Oh, ça fait, tu fais un petit peu de radio, c'est, tu as assez d'expérience pour répondre à cette question. Toi qui as rencontré les joueurs, est-ce qu'ils avaient le sentiment, est-ce qu'ils ont envie de tout casser sur la saison prochaine? Est-ce qu'ils se sont déjà projetés, ces joueurs?
Que le PSG s'endorme sur ses lauriers, ça c'est la première chose, et sur cette Ligue des Champions qu'ils ont obtenue, en plus de quelle manière. C'est exceptionnel ce que le coach espagnol a réussi à faire avec ce groupe jeune, tu l'as dit, 23-24 ans de moyenne d'âge, et pour lui, l'objectif était dans un premier temps, et on va l'écouter, d'écrire l'histoire.
Quand je suis arrivé au PSG, j'ai dit que mon objectif était de gagner des trophées importants. Le seul qui manquait au club était la Ligue des Champions. Nous sommes les premiers à l'obtenir. C'est très beau de rendre heureux des gens que l'on ne connaît même pas. L'équipe reflète les supporters du PSG qui ne cessent jamais de presser et de nous soutenir. Je suis très heureux.
Voilà, heureux pour les supporters, heureux aussi pour l'organisation du club, parce que la prolongation de l'homme du recrutement, à savoir Luis Campos, celui qui a recruté Pacho, Neves ou encore Doué l'été dernier, cette prolongation démontre bien que Paris veut encore surfer sur le réseau et le talent de Luis Campos. Le recrutement d'un joueur par ligne a été en tout cas ciblé. Ils ont déjà commencé à travailler. Un défenseur axial, droitier, qui devrait mettre Marquinhos en concurrence ou peut-être le pousser vers la sortie. Un milieu de terrain pour anticiper un éventuel départ. Et puis un attaquant polyvalent pour compléter cet effectif. Et à chaque fois, dans le même registre des profils déjà présents, pour faciliter l'adaptation dans le système de jeu actuel, continuer à progresser collectivement, c'est ce que nous a expliqué Désiré Doué du haut de ses seulement 19 ans hier soir.
Je pense que la discipline qui est mise au quotidien permet d'accomplir de grandes choses dans le football. Donc voilà, toujours se remettre en question, toujours travailler. Il y a encore de grandes choses à aller chercher pour ce club. On a écrit l'histoire ce soir, on est très contents. Et il faudra se remettre au travail pour aller chercher encore d'autres grands trophées.
Voilà, et puis un côté trophée, il y en a un hein, que le PSG peut aller chercher dans les prochains jours. C'est aux États-Unis avec la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. Et puisque vous allez en débattre, est-ce que ça peut être le Real de la fin des années 50 ou le Real de Zidane, l'entraîneur 2016, 2017, 2018 ou d'autres clubs européens comme l'Ajax, le Bayern ou encore Liverpool? Est-ce que Paris est capable de s'installer? En tout cas, ils en ont vraiment envie.
Merci beaucoup Jeannot Rességuero. On va se poser toutes ces questions évidemment ce matin sur RMC. Faut-il croire à une dynastie du Paris Saint-Germain? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. On va commencer avec un premier oui, de toute façon j'ai que des oui. Pascal Duprat.
Alors moi, j'ai bien sûr, il est très difficile de prédire l'avenir, et surtout en termes de Champions League. Tant il est difficile de la gagner des fois, déjà deux fois consécutivement. Je crois que c'est arrivé à 4 ou 5 clubs seulement, et bien sûr les plus prestigieux. Néanmoins, j'ai trouvé 4 raisons d'espérer l'hégémonie du Paris Saint-Germain. La première, c'est l'aspect financier. Je pense pas que le PSG soit un jour désargenté tant qu'il sera soutenu par QSI. Ça, ils ont les moyens. Et je l'ai commencé par ce premier volet.
Et encore plus avec cette victoire.
Oui, j'ai préféré commencer par ce premier volet parce que c'est celui qui m'intéresse le moins, en fait. Il a l'entraîneur idoine, parce qu'il l'a déjà gagné avant, et il le gagne encore, il le confirme. Son équipe est à sa botte. Ses joueurs sont ravis d'être coaché par Luis Enrique. L'équipe est jeune, c'est la troisième raison. Donc jeune, ça veut dire qu'elle est encore perfectible malgré ce qu'elle nous démontre. Et puis, puisque maintenant le PSG a comment dire rompu ou en tout cas percé le plafond de verre, eh bien pour attirer les joueurs, il y avait l'argent. Mais maintenant, il y a le palmarès qui va faire que le PSG peut attirer des joueurs. Donc ces quatre raisons-là me font dire que ça sent bon pour le Paris Saint-Germain dans les années à venir.
Ok, Christophe Dugarry.
Oui, oui, ben, ils ont trouvé la formule. Ils ont trouvé la formule. Pourquoi tu veux que cette formule disparaisse? Voilà, les joueurs ont... Au-delà des résultats, cette équipe, ce groupe, ces joueurs ont montré un état d'esprit, une mentalité exceptionnelle. Cette équipe a conquis le cœur de beaucoup de supporters de foot. Je vais pas dire de supporters hors Paris Saint-Germain, mais de supporters de foot. Sincèrement, on a pris beaucoup de plaisir. Donc, ils ont la formule. L'entraîneur a l'air sûr de lui. Les dirigeants sont enfin apaisés, se torturent plus. Les supporters sont apaisés. Tout le monde va pouvoir travailler dans des conditions encore meilleures puisque enfin ce titre et cette coupe a été gagnée. Donc moi je vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher. Et puis je vois aussi les adversaires. Alors certes les adversaires ont de la qualité, mais il va falloir aller chercher cette équipe quand même. Aujourd'hui il va falloir aller la chercher. Alors beaucoup vont chercher à se renforcer, mais il y a aussi des équipes vieillissantes. Je pense au Bayern. Je pense à Liverpool aussi. Voilà,
L'Oréal.
L'Oréal, l'équipe qui va la concurrencer le plus peut-être dans les prochaines saisons, ce sera le Barça. Évidemment, ça va être un duel à mon avis. Il faudra aussi mettre le Real avec Mbappé, avec Vinicius. Ils vont se renforcer, ils vont rajeunir cette équipe aussi. Donc, à mon avis, ça va se jouer entre ces trois équipes-là. Mais le plus important, en définitive, qu'est-ce qu'on attend de cette équipe? On sait que la victoire est incertaine et ce sera pas toujours les mêmes qui vont gagner. Mais c'est qu'elle garde ce style de jeu, qu'elle garde cet état d'esprit, qu'elle garde cette mentalité, qu'elle garde cette image qu'elle renvoie, cette équipe qui a fait qu'on l'apprécie. Et c'est ça qu'on a juste envie. Après, tu gagnes, tu perds, ça se joue à pas grand-chose. Un coup de sifflet, des joueurs blessés, des épiphénomènes de jeu qui font la beauté du jeu. Mais on a envie que cette équipe continue à jouer de la même manière et à être aussi parfaite, tout simplement.
J'ai quand même envie de revenir sur le point 4 de Pascal Duprat qui nous disait maintenant il y a des joueurs qui vont avoir envie de venir.
Encore plus.
Et pas que pour l'argent. Mais est-ce qu'on va pas peut-être retomber dans le péché des stars s'il y a d'autres stars qui veulent venir dans ce Paris Saint-Germain-là?
Non, c'est un autre modèle. On a souvent tapé pendant très longtemps, peut-être à raison, sur le PSG dans la construction de ce club sous l'ère qatari qui a pris énormément de stars, des joueurs comme Beckham, des joueurs en fin de carrière comme Claude Makélélé, des joueurs d'expérience qui, quand tu as 27-28 ans, tu dois prendre ton gros contrat. Et donc là, on a tiré des stars parce que c'était les moyens.
Makélélé, c'était avant le Qatar quand même.
Oui, mais les moyens. Attirait une certaine forme de joueurs. Et il y avait des clubs historiques où c'était une autre mentalité. Barcelone, Real, la preuve avec Mbappé, hein, les joueurs veulent aller dans ces clubs pour s'épanouir, pour devenir grand. Ça a failli tourner au vinaigre très rapidement hein, pour le PSG. Par exemple, si tu perds contre Manchester City, la première chose, tu vas te faire attaquer tes jeunes. C'est-à-dire que là, on aurait pu perdre Neves, on aurait pu perdre Vitinha. Mais cette bascule aujourd'hui fait que à la fois c'est un club puissant économiquement, mais c'est aussi grâce à son coach et grâce à cette saison, un des clubs qui va attirer le plus de jeunes. Parce que aujourd'hui la vraie clé du foot moderne, c'est d'attirer les meilleurs jeunes du monde. On paye très cher les meilleurs jeunes. Et maintenant il y a combat parce que le PSG fait partie grâce à cette victoire, grâce à ces victoires. Des grands d'Europe qui attirent les meilleurs joueurs et pas que pour l'argent.
Des grands d'Europe parce qu'ils ont enfin gagné. Tu fais plus partie de ce petit groupe de l'antichambre où tu peux aller en finale de Ligue des Champions mais tu la gagnes pas. Il y a des clubs qui sont à la porte de ça. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, je pense que les dirigeants qataris ont bien compris qu'il y a eu un système de jeu qui a été mis en place par Luis Enrique. Ce système de jeu, est-ce que c'est pas enfin l'ADN du PSG qu'il va continuer à faire perdurer avec sa manière de jouer? Et sera pour ça que la dynastie pourrait s'installer. Parce que quand tu parles de Manchester City, il y a la patte de Pep Guardiola. Quand tu parles du Real de Madrid, le Real Madrid, il y a une patte Real Madrid. Et donc en fait, le PSG n'a jamais trouvé son système de jeu idéal parce que ça changeait d'entraîneur tout le temps, parce que on était entre prendre des jeunes, on est entre prendre des stars, des joueurs qui devaient faire vendre des maillots dans le monde entier. On savait pas trop où se situer.
Là, on a l'impression. Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Paris, c'est une ville particulière. Beaucoup de joueurs se sont brûlés les ailes dans cette ville aussi particulière. Il faut comprendre aussi cette ville, son histoire.
Tu peux te brûler les ailes à Barcelone ou à Madrid.
Alors, je te le dis, Sarah, les 20 dernières années, tous les joueurs qui jouent en Angleterre ou en Espagne, quand ils voulaient faire la fête, ils n'allaient pas à Barcelone ou à Madrid. Ils venaient tous à Paris. Et beaucoup de joueurs. Je peux te rappeler le Loft, le Loft parisien. des joueurs qui étaient très très bons, très prometteurs, même en équipe de France. On va prendre Kurzawa comme exemple. Ben, quand il est arrivé à Paris, la seule chose qui l'intéressait, c'était de toucher son salaire, quitte à ne pas partir du club et à toucher son argent.
Moi, je voudrais essaye de lire dans la boule de cristal. Oui. Évidemment, c'est extrêmement compliqué, Jean-Louis, mais est-ce que tout va se jouer durant cette intersaison? Les équilibres, savoir qui gagne, qui garder, qui laisser partir. On a vu que hier, Donnarumma avait parlé à la presse italienne et qu'il ne savait pas encore s'il allait rester au PSG.
Alors, juste quand même pour insister sur pourquoi je crois à la dynastie, pour être dans le sens de Pascal, la jeunesse quand même, faut rappeler quelques âges, hein, parce que quand on les voit jouer, ils font pas du tout leur âge, mais João Neves, c'est 20 ans, il y a les Dembélé, même Dembélé qui a un cadre, il n'a que 28 ans, même Marquinhos, on a l'impression, il a que 31 ans, Marquinhos, enfin. Ouais.
Il fait plus.
Tout ça, c'est jeune.
Non, mais vu ce qu'il a subi depuis 12 ans au PSG.
Enfin, je veux dire, Nuno Mendes, c'est 22 ans. Même Kvaratskhelia, c'est 24 ans. Enfin,
Désiré Doué, c'est 20 ans dans deux jours.
Voilà. Mayulu,
19 ans aussi. Donc, la jeunesse, elle est là. Après, je pense qu'il y a un truc aussi, un aspect mental qu'il va falloir prendre en compte désormais. C'est que les futurs joueurs du PSG vont avoir les épaules, beaucoup moins lourdes. Voilà, délestés. Parce que, ils vont plus avoir cette peur d'être ridicule, cette peur d'être encore une équipe qui échoue. Là, maintenant, c'est fait, c'est gagné. Et je pense
mentalement, ce sera différent.
En revanche, là où je mets quand même un bémol et là où moi j'ai un doute, c'est le style de jeu Luis Enrique demande énormément physiquement. On en parle. Hein. Est-ce que c'est possible de durer avec une telle débauche physique, indispensable hein, au niveau pour être bon en Ligue des Champions, mais ça demande quand même au quotidien de demander
une
des choses énormes.
Une rigueur de vie imparable.
Non, mais même sans rigueur de vie, il faut avoir envie de se faire mal à l'entraînement tout le temps. Est-ce que Dembélé, il aura envie comme ça?
Mais sérieux, jusqu'à la fin de sa carrière. Mais ça a l'air pharaonique, j'espère, non?
Ils auront tellement d'argent, Jean-Louis, qu'ils pourront en changer. Quand il y a un joueur qui répond à moins aux attentes de Luis Enrique, il s'en séparera, il fera venir quelqu'un d'autre. Ils ont les moyens, ils ont quand même le nerf de la guerre. C'est de l'argent illimité. Donc, il n'y a aucune raison d'empêcher quoi que ce soit. Je comprends ton bémol, Jean-Louis, mais même ça, ils peuvent y répondre avec un peu d'intelligence et de préparation en amont, quoi.
Il y a aussi une donne qui, de mon point de vue, a changé. C'est que Luis Enrique aujourd'hui il est tout puissant au PSG, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'émir qui va choisir un joueur, hein. C'est Luis Enrique qui in fine dira qui est comment dire compatible à son système de jeu. C'est quand même nouveau.
Luis Enrique et Luis Campos aussi, hein, qu'il faut pas oublier dans l'équation, parce que les jeunes joueurs qu'il a fallu ramener, il les a suggérés. Luis Enrique en a fait des joueurs exceptionnels, vainqueurs de Ligue des Champions, mais fallait les trouver. Et Luis Campos a quand même du crédit.
Vous connaissez ma malice à chaque fois ces dernières saisons.
Le Ballon d'Or.
On s'est posé dans le Ballon d'Or. On pourrait en reparler d'ailleurs très prochainement dans les grandes gueules du sport. J'inviterai évidemment avec grand plaisir Christophe Dugarry et Jean-Louis Tour. Non, c'est vrai que cette remontada était dans les esprits. Et à chaque fois que le PSG passait les quarts, passait les demi. Comme l'année dernière, en demi-finale face à Dortmund, on a dit, est-ce que ça y est, c'est oublié. J'ai l'impression que ce matin, cette remontada, cette défaite face à Manchester, en fait, on est en train de se dire de retourner la machine et on est en train de se dire, voilà, il a fallu passer par tout ça et heureusement qu'il y a eu tout ça pour maintenant fêter ce titre.
Tu sais, on parle souvent de l'arbitrage, la manière dont sont arbitrés les grands. Ça fait partie du sport collectif. C'est-à-dire que quand t'as un grand, t'as certains passe-droits invisibles, tu vois. Et ben, le PSG, il fallait qu'il passe un cap pour être respecté aussi dans ce cadre-là.
Donc c'était un passage obligé.
C'est un passage obligé.
Se faire escroquer
bisuter, on va dire.
Non, mais vous parlez quoi pour l'arbitrage. Là, enfin, c'est pas comme si le PSG avait eu des coups de sifflet favorables. Là, ils ont montré qu'ils étaient largement au-dessus par le jeu. Et l'autre truc, je pense, disais, toi, tu parles plus pour les supporters. Les supporters, oui, ils profitent encore plus, et c'est pour ça, je pense, que leur joie qu'on palpe sur RMC depuis hier soir est un peu décuplée, c'est qu'ils ont eu, c'est comme dit la chanson, ces années de galère et de combat. C'est des convenus dont tu parlais font qu'aujourd'hui la joie est aussi disproportionnée.
Ceux qui ont 18 ans, ils l'ont jamais vu, hein, ça. Et ils ont vu que Paris gagner, hein, ceux qui ont 18 ans, tous les nouveaux supporters. Hein.
Ils ont vu les dernières défaites en Ligue des Champions quand même.
Eux, ils sont tristes de quelque chose qui, pour ceux d'avant, les supporters d'avant, était exceptionnel déjà. Ça veut dire qu'il y a vraiment deux types de supporters au PSG.
Essayons de regarder plus large que les supporters parisiens. Donc, je ne suis pas volontiers moqueur. On se moque suffisamment de moi pour que je fasse l'économie de
pas dans cette émission,
me moquer des gens.
Mais
il s'est opéré quand même une transformation des amateurs de football, qu'ils soient supporters parisiens ou pas supporters parisiens. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, nous sommes admiratifs du Paris Saint-Germain. On ne peut plus se moquer du Paris Saint-Germain parce qu'il nous touche au cœur. au travers de cette campagne de Ligue des Champions. Mmh. C'est devenu une équipe où tout le monde défend. On se foutait de leur gueule avant, parce qu'ils jouaient à 8 ou ils jouaient à 7. Il y en a deux qui couraient pas. Et donc, on se disait, ils pourront pas y arriver. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le Paris Saint-Germain joue en équipe. Le football est le grand vainqueur, en fait, grâce à eux.
On poursuit la discussion dans quelques instants. Je voudrais accueillir un grand gagnant dans cette émission. Il s'appelle Alain. Salut Alain.
Salut.
Alain, c'est supporter du Paris Saint-Germain ?
Oui, tout à fait.
T'es un homme heureux ce matin ?
Oh, très heureux. Vous savez pas à quel point.
Tu as joué avec nous, mon cher Alain. Je rappelle, t'as quand même un dilemme, hein, parce que je vous proposais de jouer pour remporter soit le maillot historique du PSG la saison prochaine, celle avec l'étoile évidemment. D'ailleurs, dans quelques instants, on sera en direct de la boutique du Paris Saint-Germain sur les Champs-Élysées. C'est un raz-de-marée, me dit-on. On prendra notre reporter dans une poignée de secondes.
Pas fan de cette étoile, moi.
Ou alors,
on parlerait dans un podcast.
Tu en parleras pendant la pub, ça va être très intéressant, cette étoile. Ça sera peut-être le débat caché dans quelques instants, c'est une bonne idée ça, Jean-Louis. Ou alors des places pour le premier match à domicile du PSG en Ligue des Champions. Tu choisis quoi, mon cher maillot, Alain? Est-ce que tu veux le maillot ou tu veux...
Le maillot.
Eh bien, tu sais quoi, tu Alain? Tu viens de remporter le maillot historique donc, du PSG pour la saison prochaine. Bravo, cher Alain. T'as même pas besoin d'aller faire la queue sur la boutique des Champs. Bravo, cher Alain, on est très heureux pour toi.
Super, merci beaucoup.
Grâce à RMC, c'est ça, c'est pour toi, oui, Alain.
Mais en fait, ils m'ont mis la joie dans le cœur hier. C'était surréaliste et je m'en suis pas toujours remis là. Là, j'arrive pas à réaliser. Donc, impatient du défilé et de les apercevoir, quoi.
Tout au long de la journée sur RMC, tu vas pouvoir réaliser parce que nous serons partout évidemment avec nos différents reporters. Bravo Alain et profite bien de ce maillot donc avec l'étoile. Oui, Jean-Louis.
Il est où Christophe Cessieux?
Christophe Cessieux.
Oui. Excuse-moi, alors, je percute quand même qu'il est
alors
pas là.
Alors, si à Christophe.
Bravo. Oui. Mais il est où, là? C'est l'événement et tout. Il a couvert les plus grands événements dans sa carrière de journaliste.
Alors, le problème, c'est que si Christophe, je lui propose une émission 100% foot, je pense qu'il m'envoie le conducteur à la tronche.
Enfin,
il est en vacances.
Il aurait été à la hauteur de l'événement. Il s'est quand même mesuré les événements de sport, Christophe.
Il y a quelques journalistes qui ont déclaré forfait avec le PSG sur d'autres chaînes aussi.
Il n'est même pas marseillais, Christophe.
Il est niçois. Rapidement, Jeannot Rességuier. Avec nous en direct de Munich pour le programme des Parisiens.
Alors ils sont attendus entre 15h30 et 16h à l'aéroport de Charles de Gaulle. Début de la parade aux alentours de 17h, mais bon, il y aura de toute façon un petit peu de retard. Ça doit durer à peu près une heure. À 19h, réception à l'Elysée avec le président Emmanuel Macron. Direction ensuite le Parc des Princes pour la célébration avec les abonnés. Les horaires sont encore un petit peu flous, mais en tout cas l'ouverture des portes est prévue à 19h30 avec un show musical en attendant l'arrivée des joueurs. Présentation du groupe 21h30 et bien évidemment présentation de la Ligue des Champions à ce moment-là aux abonnés au Parc des Princes.
Merci beaucoup Jeannot Rességuier, on t'attend sur Paris évidemment.
À tout à l'heure.
Bon retour de Munich. Jean-Louis Tour, dans quelques instants à partir de midi, ça va être un autre événement sur RMC, on continue cette journée spéciale.
Bah oui, on s'adapte à l'événement sur RMC, c'est le cas depuis hier et ce sera le cas jusqu'à tard dans la soirée, on est au plus près de là où ça se passe tout au long de la journée et on laisse légèrement de côté les paris RMC qui seront de retour à midi et demi pour revivre les grands moments de la finale. Vous avez entendu un Jeannot Rességuier avec une toute petite voix là. Vous l'entendrez hier au commentaire en longueur avec Jérôme Roten également. On refera tous les buts en longueur. Vous allez pouvoir vous régaler donc entre midi et midi 30. La finale de la Ligue des Champions sera de nouveau sur RMC.
Et encore les frissons évidemment sur RMC. On poursuit la discussion dans les grandes gueules du sport avec toutes nos GG. Ce matin, nous serons avec Vincent Guérin. On poursuit évidemment la liste de nos invités. Vincent Guérin sera notre invité. Et puis nous serons, je le disais, en direct de la boutique du Paris Saint-Germain sur les Champs-Élysées. C'est la folie actuellement. Allez, à tout de suite sur RMC, 11h29.
PSG champion, ça fait des années qu'on en rêvait. Bravo Paris,
on est champion.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport, spécial victoire du PSG.
Le PSG remporte la Ligue des Champions. Marquinhos qui brandit la coupe dans le ciel de Munich et toute la délégation parisienne qui est en train de l'enlacer pour sauter, pour faire la fête. Elle est parisienne, cette Ligue des Champions.
Jean-Christophe Drouet.
Moment intense, c'était hier soir sur RMC, des moments que vous allez revivre à partir de midi avec aux commentaires hier soir Jeannot Séguier, Jean-Louis Tour et Jérôme Rotten. Restez bien avec nous tout au long de la journée, on vous raconte et cette fête magnifique qui se prépare à Paris avec cette parade notamment sur les Champs-Élysées. Les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Dugarry, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Olivier Giraud et Jean-Louis Tour. Et nous allons aller en direct de la boutique du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. On retrouve l'un de nos envoyés spéciaux, Corentin Roland. Salut Corentin.
Salut, salut à tous. Une ambiance indescriptible. C'est pas des centaines, c'est des milliers de supporters qui sont en train de former une file d'attente qui s'étire tout le long du stade Jean-Bouin où il y a cette boutique du Paris Saint-Germain. Et voilà, une ambiance assez indescriptible. Et si vous voulez, j'ai la chance d'être avec un des premiers avec le maillot de l'étoile du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous voulez l'entendre?
Bah oui, évidemment, on veut l'entendre.
Et ben, on est avec Nathan. Alors, Nathan, racontez-nous un petit peu. Vous êtes arrivé très tôt, je crois, à cette boutique du PSG ce matin.
Déjà, il y a eu l'aftermatch. On l'a fini vers minuit. Et après, on est allé se coucher parce que moi, je voulais absolument avoir le maillot. Les autres, ils sont partis faire l'after. Mais moi, je leur ai dit, écoutez, je préfère avoir le maillot. C'est à vie, c'est une étoile. 5 buts à 0, ça se fête.
Et vous êtes arrivé à quelle heure ce matin?
Ah, je suis arrivé très tôt, à 5h.
À 5h devant la boutique, donc ça a fait quand même 6h d'attente. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce maillot avec l'étoile? En quoi c'était important pour vous de l'avoir là?
Écoutez, moi je suis né depuis 20 ans maintenant. Je ne suis pas un supporter de la première heure du PSG malheureusement. Je connais depuis l'époque de Neymar. Et bah, depuis, après c'est devenu mon équipe de cœur. Voilà.
Et donc vous avez pris 5 maillots quand même, là le total est fait pour les amis aussi?
Ah là j'en ai pris pour moi et pour mes amis qui en ont besoin. Donc écoutez, là pour les gens qui sont au stade Jean-Louis, j'ai encore cette bonne chance pour en avoir un. Bah, j'espère qu'ils en auront un. Pour moi j'espère que tous les fans pourront se le payer aussi. Donc c'est quand même 150€, mais bon ça les vaut.
Merci Nathan. Alors il y a énormément d'attentes, je vous le disais, et beaucoup de cartons dans la boutique du PSG, mais a priori on pourra pas faire que des heureux au Parc des Princes pour ce maillot étoilé aujourd'hui.
Merci beaucoup Corentin Roland d'avoir été avec nous en direct de la boutique du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Petit calcul de tête, il a pris 5 maillots à 150€, ça fait à peu près 750€, donc wow. Forcément
ça va vite hein.
Oui c'est impressionnant,
c'est même pas à peu près hein.
Ouais, c'est exactement ça.
C'était une manière de parler, Sarah. Oui. Mais oui, je sais que je suis assez impressionnant dans cette émission ce matin, et je comprends que vous soyez assez hallucinés. Les autres maillots vont devenir vintage, hein, parce qu'il n'y aura pas cette petite étoile. Vincent Guérin sera avec nous dans quelques instants. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec l'étoile, Jean-Louis Tour.
Oui, alors bon, il y a un problème avec l'étoile. Ça va pas m'empêcher de dormir. Mais je regrette un peu. En tout cas, j'espère que cette étoile va pas s'installer durablement. J'espère que c'est un maillot collector, un truc marketing, parce qu'il faut marquer l'événement. La première victoire en Ligue des Champions, mais j'espère que l'étoile va pas s'installer. Moi j'aimais bien l'idée, comme les grands clubs européens, de pas mettre d'étoile pour la victoire en Ligue des Champions. Les Italiens mettent une étoile quand ils gagnent 10 championnats par exemple, ils ont pas d'étoile pour les victoires en Ligue des Champions. Le Real et le Barça non plus. Voilà, j'aimais bien cette idée là, que l'étoile ne soit pas pour la victoire en Ligue des Champions. Et j'espère vraiment que ça va pas s'installer, parce qu'après s'il y en a plusieurs, bah à chaque fois tu rajoutes une étoile et tout. Enfin je suis pas convaincu du truc.
Ok.
Bah, c'est bizarre parce que non mais t'es d'accord sur l'étoile pour les titres de champion du monde pour une équipe nationale ou pas du tout?
Oui bah ça à la limite oui ça, je trouve que ça va dans la tradition, mais je te dis, à partir du moment où il y a plein de grands clubs européens qui ne font pas
qui
ça,
ne le font pas,
pourquoi aller faire différemment nous parce qu'on est français?
C'est commercial,
ça fait vraiment
genre,
non
oui,
ça
c'est
fait
commercial.
Vraiment, on en a pas gagné beaucoup, on le montre tout de suite, on n'a pas gagné beaucoup de coupes d'Europe,
je le vois pas comme ça,
non,
moi
faudrait être un peu au-dessus, je trouve.
Alors voilà. On continue le débat dans quelques instants, on va accueillir notre invité.
En plus c'est un détail,
non c'est un détail, mais c'est important d'en parler parce que je sentais que ça te tenait à cœur. Et puis c'est vrai que si le Real fait ça, le problème c'est que le Real, tu vois plus le sponsor.
Voilà.
Il y a les étoiles dans tous les sens. Vincent Guérin est notre invité exceptionnel ce matin. Salut Vincent.
Oui, bonjour à toutes et à
tous.
Vincent.
On est très heureux de t'accueillir dans cette émission. Alors ce matin, on a eu Grégory Pesslet, Pierre Ducrot, Laurent Robert. Enfin, tu étais avec toute la team hier et tout le monde nous a dit que tu étais celui qui avait fait le plus la fête. Est-ce que tu confirmes?
Allez, ça ne part. Il faut bien trouver on a tous été de la fête entre guillemets et avec grand plaisir, on a vécu une soirée exceptionnelle.
Bon, toi qui es un historique du Paris Saint-Germain, tu as fait vibrer des générations et des générations. Moi j'ai en tête évidemment ce but face au FC Barcelone dans les années 90. Qu'est-ce que tu as ressenti hier?
Ah bah du bonheur, de la fierté, du plaisir, parce que au-delà de d'avoir gagné cette finale et cette compétition européenne, c'est aussi le contenu. Le contenu a été quand même incroyable, parce que bon, on s'attendait pas à ce que Milan soit aussi faible entre guillemets sur cette finale.
Cette finale, cette configuration, est-ce qu'à un moment donné tu aurais pu l'imaginer dans tes rêves les plus fous ou non? Tu étais abasourdi comme nous tous hier.
Oui, je pense qu'il y a personne qui pouvait imaginer un tel résultat. Enfin, la preuve en est, parce que c'est le record d'écart sur une finale de Ligue des Champions. Donc 5-0, c'est jamais arrivé. Et puis bon, ce qu'avait pratiqué l'Inter de Milan face au Barça, bon, on pouvait se dire que on pouvait avoir un scénario compliqué par rapport aux Italiens. On sait que les Italiens, c'est jamais facile à jouer. Donc, je pense qu'il y a vraiment très, très peu de monde qui pouvait imaginer un tel scénario.
Jean-Louis Tour avec Vincent Guérin.
C'est pas forcément une question pour Vincent, mais je profite de sa présence pour le dire, et je pense qu'il ira dans mon sens. Mais il y a un truc qui a été particulièrement réussi hier, c'est les passerelles avec les anciennes générations du PSG. C'est-à-dire que qu'ils soient là, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, non.
Qu'ils oui, on là, en a parlé, mais vas-y.
Qu'ils soient là, soit avec le diffuseur, soit invité par le club. Je trouve que sur l'image, il y avait tout le monde. Il y avait le PSG 86, le titre de champion avec Luis Fernandez. Il y avait le PSG des années 90 avec Vincent. Vincent,
avec Rai,
avec Comboiré, avec David Ginola, avec Youri Djorkaeff, enfin ils étaient là. Il y avait le PSG des années Qatari avec Javier Pastore, avec Marco Verratti, et je trouve que de ce point de vue-là, les images sont réussies et c'était important de pas se rater pour la première victoire en Ligue des Champions.
Vincent, tu le ressens comme ça aussi, cette communion, cette histoire du Paris Saint-Germain qui était hier à Munich?
Ouais, c'est important. Je pense que il y a une histoire d'un club. Bon, en l'occurrence, le Paris Saint-Germain, et l'histoire, il faut la perpétuer, et ça passe par les anciennes générations. On n'est que des témoins de passage, mais c'est important de se rappeler de ce qui s'est passé précédemment pour accueillir aujourd'hui et puis le futur demain.
Olivier Giraud.
Salut mon Vincent. Il y a un truc, ouais, je vais bien. Il y a un truc dans cette équipe qui est de football total. Et toi, tu fais partie de ces joueurs un petit peu comme Blaise Matuidi, qui faisait partie de ces milieux de terrain qui couraient beaucoup pour les autres. Est-ce que tu aurais aimé jouer dans cette génération, dans ce type de jeu qu'il y a aujourd'hui, où tout le monde court comme un peu vous couriez à l'époque?
Complètement, ça ressemble. Je pense qu'on a un peu ces caractéristiques entre cette équipe de notre équipe de 96 et celle qui a gagné la compétition hier. Il y a une âme dans cette équipe et tout le monde se bat les uns pour les autres. Donc il y a une vraie ressemblance de style en tout cas et caractéristique de joueur. Alors c'est vrai que hier on en parlait, je pense que j'aurais bien aimé jouer à cette période-là, malheureusement c'est pas possible, on peut pas me refaire le moteur et la carrosserie pour revenir en arrière.
Tu peux plus jouer là, vraiment, c'est définitif.
Ouais, il joue encore un peu.
C'est un peu compliqué, ouais. Non, on joue au paddle maintenant, on essaye de se préserver pour faire une petite activité sportive. Non, mais après c'est génial. Ce qui, je pense que c'est une équipe qui, bon, au fil de la saison a évolué effectivement, mais surtout qui est aimée des gens parce que ils développent justement des vertus qui sont celles qu'on aime, c'est-à-dire combattre ensemble, être conquérant, faire des efforts ensemble, le pressing ensemble, et puis bon, après avoir des résultats évidemment, mais c'est ce qui montre sur le terrain. Il y a véritablement quelque chose qui anime ces joueurs et qu'on aime, et pas simplement que je pense les supporters du Paris Saint-Germain. Je pense que ceux qui aiment le foot aiment ce genre d'équipe.
Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Repose-toi bien. J'espère
merci
que
beaucoup, oui,
tu seras de la parade au Parc des Princes aussi. Tu es rentré très tôt ce matin de Munich. Et en tout cas, merci d'avoir été avec nous dans les grandes gueules du sport. Il y a quelques instants, on était en direct de la boutique du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Évidemment, des milliers de supporters affluent pour tenter d'avoir le maillot avec l'étoile. Et c'était un des combats ce matin de Jean-Louis Tour. Vous l'avez entendu il y a quelques instants. L'étoile, est-ce que vous vouliez réagir? Je crois que Olivier, tu voulais réagir sur l'étoile, sur le maillot.
Non, moi je trouve que c'est une bonne chose, et de toute manière cette équipe-là, elle a été connue avant son jeu, surtout sur son développement à l'international. Alors on fait un calcul, hein, c'est une des équipes, si c'est pas l'équipe actuellement qui vend le plus de maillots dans le monde, hein, le PSG. Donc un maillot avec.
C'est l'équipe ou c'est pas l'équipe?
Je pense que c'est l'équipe aujourd'hui qui vend le plus de maillots.
Je crois pas que ce soit. Je pense que Barça.
Non, je pense qu'ils sont passés devant. Je pense qu'ils sont passés devant.
On demandera parce conseil à nos conseillers marchandises.
Ils ont fait un gros travail en Chine. Tu sais, dès que tu touches la Chine, ça va très très vite. Ouais. Et un maillot avec une étoile en termes de revenus, parce qu'ils sont jamais avares d'augmenter les revenus, ça va être juste hallucinant. Donc il y aura même pas le choix. Cette étoile va arriver. Ouais.
Choix cornélien pour Christophe Dugarry. Il va devoir choisir quel est le débat le plus pourri de cette émission. Ouais, est-ce que c'était celui sur le ballon d'or et Dembélé, ou c'était celui sur l'étoile? Il faut choisir entre quelque part Jean-Louis et JC.
Non, mais après, tout le monde c'est gagné, bien évidemment, mais ça concerne plus les supporters, voilà, la sensibilité, je comprends Jean-Louis ce qu'il veut dire. Je trouve ça aussi assez classe et assez élégant, le Paris Saint-Germain l'a été. Moi, j'ai trouvé génial que Jean-Louis rappelle la passerelle qui a été faite par les dirigeants, sincèrement, envers l'ancienne génération et celle qui vient de gagner actuellement. Donc voilà, à ce niveau-là, je trouve que les dirigeants ont pratiquement tout réussi. L'image qui est renvoyée de cette équipe, de ce club, est à nouveau très très bonne. Après, oui, je trouve que l'histoire de l'étoile, c'est pas une obligation. Voilà, ça fait un peu prétentieux, je trouve. Et c'est pas à l'image de cette équipe ou de ce que dégage ce club depuis quelques mois.
Voilà, j'ai gagné.
Je crois, mais c'est parce que tu le connais depuis très longtemps, mais c'est parce que c'est l'époque Team Dugas. Sinon, je pense que Christophe aurait voté pour moi facilement. Ouais, sachez qu'on s'est renseigné pour les maillots entre 2018 et 2023, c'est Liverpool qui a vendu le plus de maillots et le Paris Saint-Germain n'arrivait que cinquième, même si c'était déjà une très belle place.
2023, mais
cinquième.
2023.
Oui, de 2018 à 2023. Ah ben, j'ai pas les dernières
études. 23-25, c'est exceptionnel, dit Olivier.
Très bien. Si vous avez les chiffres, évidemment, n'hésitez pas dans cette émission. On est encore ensemble quelques instants dans les grandes gueules du sport. Je vous rappelle cet événement à partir de midi. Vous allez revivre cette finale avec aux commentaires Jean-Louis Tour, Jeannot Rességuier et Jérôme Rotten. Et puis tout au long de la journée, la parade sur les Champs-Élysées. Allez, on poursuit nos débats dans les grandes gueules du sport avec tous nos invités. Et vous savez quoi, NGG sera avec nous. C'est le meilleur ami de Luis Enrique. Il se tape dans le dos, ils se font la bise. Et il fait partie des grandes gueules du sport. Vous savez de qui je parle ou pas?
Non.
Marc Madiot.
Mais bien sûr, Marc Madiot sera avec nous dans quelques instants. Il l'adore, il l'appelle Luis maintenant, c'est dire. Allez, à tout de suite sur RMC pour en parler avec Dugas comme ça. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
C'est super! Merci Paris!
La plus belle chose qu'on ait vue de notre vie. On n'est pas couché, ça va être la fête, jusqu'au bout.
Même dans la mémoire de mes enfants, ça va être gravé.
Incroyable ambiance, c'est un rêve d'enfance, un rêve de gosse.
J'ai pas les mots, j'arrive pas à y croire. J'ai l'impression qu'on est dans un rêve éveillé.
Spécial victoire du PSG.
Jean-Christophe Drouet.
Et le rêve est arrivé pour le Paris Saint-Germain. Cette victoire en Ligue des Champions, la première étoile pour les Parisiens. Première fois dans l'histoire que le PSG remporte la plus prestigieuse coupe européenne. C'est donc le deuxième club français après l'Olympique de Marseille en 1980. A touché le Graal, le sacre du Paris Saint-Germain. On continue d'en parler tout au long de la journée sur RMC avec ce matin dans les GG Christophe Dugarry, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Olivier Giraud, Jean-Louis Tour et également une GG qui est le meilleur ami, on peut le dire, le meilleur ami de Luis Enrique, c'est Marc Madiot. Salut Marc.
Salut.
Alors Marc qui a vécu une soirée particulière, car sachez que Marc est actuellement en Mayenne, son pays, sa ville, sa région, pour les boucles de la Mayenne. On va pas parler des boucles de la Mayenne si ça te dérange pas, Marc, même si on adore cette compétition, mais là c'est pas, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Marc, toi qui es le meilleur ami de Luis Enrique, qu'est-ce que tu as ressenti hier?
Je n'irai pas jusque là, mais j'ai passé une excellente soirée hier soir. On était à l'hôtel avec toute l'équipe, et puis il y avait nos amis d'AG2R qui étaient également présents dans le même hôtel que nous, et on a passé une excellente soirée, tout en dînant, en regardant le match, et c'était extrêmement fluide.
D'ailleurs, ça va pas relever votre cote auprès de la Jumbo qui vous accusait pendant le Tour de France d'aller boire des bières?
Nous n'avons pas consommé de bière.
Très bien.
Voilà, on a du mal à vous croire, là, quand même.
Non, on était au vin rouge.
Ah.
Ok, ça fait une pièce de plus dans le dossier avec la Jumbo Visma. Marc, est-ce que tu as été surpris par cette finale?
Moi, ce qui m'a plu, ce que j'attendais, c'était le pressing, le niveau physique des joueurs du PSG. En réfléchissant à ce qui s'était passé dans ce match, j'ai trouvé que le PSG avait un niveau physique d'exception. Ils ont été capables de jouer pleine balle pendant 90 minutes. Et la gestion du physique et du mental des coureurs, au-delà d'embarquer tout le monde dans le même bateau pour ce périple européen. Il y avait quand même beaucoup de fraîcheur. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fraîcheur physique, beaucoup d'engagement, beaucoup de pressing. Et ça montrait une qualité de niveau physique exceptionnelle. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Parce que, en fait, l'Inter, c'est quand même une belle et grande équipe. On l'a vu sur les tours précédents. Mais ils étaient en bout de course, quoi. Ils étaient cuits, quoi. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de gasoil. Il n'y avait plus d'essence.
Dans les prochains jours, Marc, forcément, le débat sur Luis Enrique va s'ouvrir. On se demandera si c'est le plus grand coach de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ton regard là-dessus, toi, le fan du PSG.
Je pense qu'il a réussi un truc que les autres avaient peut-être envie de faire, mais qu'ils n'ont pas pu réaliser ou faire. C'est pas le moment. C'est pas forcément l'heure, parce qu'un Ancelotti à Paris, c'était quand même du haut de gamme. Plus les autres, mais je pense que Enrique est arrivé au moment où il fallait dans ce club et il a su imposer sa révolution et son évolution à ce club, et c'est sa plus grande réussite, parce que il a eu la confiance des dirigeants, qui n'est peut-être pas forcément la même précédemment avec les entraîneurs précédents, et il a su convaincre et il a embarqué tout le monde. Mais moi, je connais pas plus que ça Luis Enrique, mais pour l'avoir croisé pendant quelques heures, on comprend tout de suite qu'il est habité par son projet, il est habité par ce qu'il fait, et il est en capacité de convaincre tout le monde qui va réussir, et c'est ça qui est fantastique avec lui, quoi.
Marc Madiot avec nous dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup, Marc. Il y a Christophe qui veut réagir.
Oui, non, mais je pense que c'est aussi intéressant de rendre hommage aussi au président Nasser, qui malgré toutes les erreurs qui ont été commises pendant les 12 ou 13 premières années, souviens-toi, c'est plus les entraîneurs ou les joueurs qui étaient critiqués, c'était la stratégie des dirigeants, et notamment de Nasser, qui était, alors je vais pas dire qu'il était sur la sellette, parce que je pense qu'il a jamais été non plus, mais qui était énormément critiqué. Souvenons-nous quand même à l'automne, lorsque les résultats du PSG en Ligue des Champions n'étaient pas là, je pensais, moi, une fois de plus, que les dirigeants allaient le lâcher, tout comme ils ont pu le faire avec Ancelotti, avec Blanc, avec Emery ou Tourelle. Et d'ailleurs, Luis Enrique était très nerveux dans ses conférences de presse. Souviens-toi, il était juste insupportable. Et je pense que toute la différence, elle s'est faite là. Peut-être que d'autres entraîneurs auraient réussi ce qu'a réussi Luis Enrique. Alors pas dans le style de jeu, pas dans la façon de faire, mais peut-être auraient réussi à gagner s'ils avaient pu avoir un petit peu plus de temps. Et je pense que toute la différence, elle s'est faite aussi là. Il faut féliciter le président Nasser et certainement avec Luis Campos aussi, qui a su trouver les mots pour continuer avec cet entraîneur-là malgré toutes les difficultés. Et ça c'est quand même quelque chose de fort. Ils ont su apprendre de leurs erreurs.
Olivier Giraud veut réagir.
Eh ben c'est plutôt vers Dugas que je vais me tourner, parce que il y a quelque chose qu'on ne mesure pas, parce qu'on parle souvent à des entraîneurs français qu'on connaît très bien, mais la manière de coacher des entraîneurs espagnols, ce qu'ils amènent dans le rapport humain avec leurs joueurs, et ça tu l'as vécu. Est-ce que tu sens ça aussi comme tu l'as senti quand tu étais en Espagne entraîné par des Espagnols, Dugas?
Non, mais je pense que sa grande force à Luis Enrique, c'est son ego. C'est son ego et ses certitudes. Il est sûr de lui, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, il garde toujours cette image, cette opinion-là, même quand les choses n'allaient pas, parce qu'attention, ça a été compliqué pour le Paris Saint-Germain. Ah ouais. Il avait un record de défaites en Ligue des Champions, Luis Enrique. Hein. Souviens-toi, ça a été très compliqué. Même lui, il a évolué dans son jeu, dans sa façon de faire évoluer son équipe. Il était omnibilé par la possession, mais sa possession, elle devenait ennuyeuse lorsqu'il était entraîneur de la sélection espagnole. Même avec le Paris Saint-Germain, au début, c'était ennuyeux. Il cherchait à mettre un pseudo avançant. Ça a été Kanginli, ça a été Asensio, ça a été très compliqué. C'était ennuyeux avant de jouer le Paris Saint-Germain. Moi, je me souviens, je me suis vu zapper des matchs tellement on s'ennuyait. Donc, il a su évoluer, et de telle certitude aussi. Et je pense que c'est ce qu'avait besoin d'entendre aussi le président Nasser, dans un moment où il y avait le grand flou, où il savait plus comment faire à base de milliards. Il y a plus de 2 milliards dépensés en 15 ans dans le recrutement. Donc, ils ont mis beaucoup, beaucoup d'argent. Et je pense que Luis Enrique, avec ses certitudes, avec son attitude, avec ce comportement, avec cette espèce de leadership et d'ego surdimensionné, il a réussi à prendre tout le poids et toute la responsabilité du truc en disant, laissez-moi faire, suivez-moi, vous allez voir, malgré les difficultés et malgré tout ce qui se passe actuellement et qui peut vous faire peut-être reculer, vous donne envie de changer, il a su trouver les mots et convaincre le président Nasser, qui avait aussi besoin peut-être d'entendre ces moments dans un moment où lui était perdu, parce que je pense qu'ils n'avaient plus vraiment la solution. Ils entendaient qu'il fallait changer de stratégie, mais ils n'arrivaient pas à le faire, et ils ont trouvé l'homme idoine avec Luis Campos aussi, et les planètes se sont alignées au bon moment. Mais bravo à eux quand même d'avoir su faire preuve d'un peu de patience dans un moment qui était compliqué pour le PSG.
Merci beaucoup Marc Madiot d'avoir été avec nous dans les grandes gueules du sport ce matin. Évidemment, on te retrouve très vite autour de la table. Ainsi s'achève cette émission exceptionnelle sur les Champs-Élysées, spéciale victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On a été très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup Christophe Dugarry. Merci Sarah Pitkowski.
Merci beaucoup à vous.
Pascal Duprat, merci. Olivier Giraud.
Merci.
Jean-Louis Tour. Jean-Louis, oui. On va te retrouver dans quelques instants parce qu'attention, Maxi Frisson, dans une poignée de secondes, vous allez revivre cette soirée sur RMC, cette soirée inoubliable.
Oui, pendant une demi-heure, on va revivre cette soirée, cette finale de la Ligue des Champions, avec les commentaires de Jeannot Rességuier, de Jérôme Roten. On va retrouver Jeannot d'ailleurs en Allemagne juste avant qu'il prenne son vol et on retrouvera les paris RMC. À partir de 12h30, c'est la suite de cette journée exceptionnelle sur RMC. On a bouleversé nos programmes pour vous faire vivre l'événement. On sera sur les champs pour la parade, à l'Elysée pour la réception des joueurs, au Parc des Princes pour la présentation du trophée ce soir. On ne vous lâche pas jusqu'à tard dans la nuit et on revit dans quelques secondes cette finale de Ligue des Champions.